Un mois plus tard. Les obsèques de Nathan ont été absolument aussi atroces que prévu. Il connaissait tant de gens. Et tous ceux qui le connaissaient l'aimaient. L'atmosphère dans le crématorium, plein à craquer, était fébrile sous l'effet de la douleur et du choc. Contrairement à Alix, Nathan avait eu une vie difficile. Sa mère était morte quand il avait 12 ans. Son petit frère s'était tué quand Nathan en avait 28, 2 ans avant qu'il ne rencontre Alix. Il avait réussi à surmonter la douleur, le deuil, pour se construire une bonne vie. Il n'avait pas fait d'études. Après le lycée, il avait immédiatement commencé à travailler et s'était battu pour chaque centime gagné. Mais il était très généreux, presque à l'excès, avec l'argent pour lequel il travaillait si dur. Et l'alcool, ça n'avait rien à voir avec elle. Il était désormais bien clair à ses yeux que ça n'avait jamais été lié à elle. C'était lié à lui, Nathan. C'était sa façon de parvenir à équilibrer l'écosystème délicat de son psychisme blessé. Il ne voulait pas qu'Alix découvre cette part sombre de lui. Il ne voulait pas qu'elle le voie dans cet état. Quand il buvait de cette façon, jusqu'à tout oublier, c'était une forme d'automédication, de soupape. Ce n'était pas pour s'amuser ni se soustraire à sa vieille mégère. Il se détestait quand il était dans cet état. Et c'est pour cela qu'il ne rentrait pas à la maison. Pas parce qu'il ne voulait pas être avec elle, mais parce qu'il ne voulait pas qu'elle soit avec lui. Près de 300 personnes s'étaient réunies au crématorium, à côté de l'appartement du père de Nathan, à Kensal Rise. Derrière les portes du cimetière, dans la rue, les journalistes et les paparazzis se tenaient à une distance respectueuse. Alix portait une robe qu'elle avait choisie assortie aux yeux de Nathan. Le vendeur lui avait dit que c'était artichaut. Alix n'était pas sûre de connaître la couleur des artichauts. Elle savait cependant que cette robe était de celle des yeux de son mari. Et c'était tout ce qui comptait. Le temps était agréable ce jour-là. 4 semaines après que le cadavre de Nathan avait été sauvé des eaux de Windermere, pas encore enflé, Dieu soit loué, toujours reconnaissable. Le mois était passé dans un tourbillon flou. Mais ce jour-là, Alix l'a vécu de façon claire et aiguë. Elle s'est sentie à sa place parmi cette foule amassée. Et ensuite, à la veillée organisée par le travail de Nathan dans un immense bar qui donnait sur le canal de Paddington, sur la terrasse, avec du champagne à volonté et une liste de chansons qui avaient été préparées par les meilleurs amis du défunt. Avec les enfants qui couraient partout en tenue d'été, les discussions animées et pressantes, les rires pleins de vie, les gens sur leur 31 estival. Elle a eu l'impression que son mari pouvait surgir à tout moment, dans son élément, pour profiter de ses proches. Et en voyant qu'il ne venait pas, elle s'est dit qu'il l'attendait peut-être à la maison. Quand elle ne l'y a pas trouvé, elle a pensé qu'il était peut-être parti en week-end avec ses copains. Et quand, 10 jours après l'enterrement, elle a constaté qu'il n'était toujours pas revenu. Enfin, à ce moment-là, elle s'est écroulée. Elle est allongée dans son lit, à la veille du premier jour de collège d'Elisa. Elle porte sa robe artichaut et serre un oreiller dans ses bras, le corps traversé de spasmes de sanglots, d'une violence qui la submerge, quand elle prend enfin conscience de ce qu'elle a perdu. Bonsoir, je suis votre jumelle d'anniversaire. Une série originale Netflix. À l'écran apparaît un reportage du journal télévisé de la BBC tourné devant le cimetière de Kensal Rise, au nord-ouest de Londres. L'envoyé spécial s'exprime solennellement, d'une voix respectueuse. Aujourd'hui ont lieu les obsèques de Nathan Sumner, l'époux de la créatrice de podcast Alix Sumner, au crématorium de Kensal Green, dans le nord de la capitale. Des dizaines de proches du disparu ont passé ses portes ce matin pour venir soutenir la famille et faire leurs adieux à un homme qui, semble-t-il, était très apprécié. Malheureusement, Un mois après la découverte de son corps dans les bas-fonds du lac Windermere, la police n'est toujours pas parvenue à rattraper la femme suspectée de lui avoir administré une dose létale de barbiturique après l'avoir enlevée. Josie Fair, 45 ans, a été aperçue pour la dernière fois le jeudi 25 juillet dans le village d'Ambleside, où elle a donné son chien à deux inconnus avant de disparaître. Elle est également activement recherchée pour son implication dans le meurtre de son mari Walter Fair, 72 ans, dans celui de Brooke Ripley, 16 ans, et pour tentative de meurtre sur sa propre fille, Erin Fair, 23 ans. Depuis sa disparition, la police a reçu plusieurs signalements de témoins, pensant l'avoir repéré dans le nord de la France, à Marrakech, à Belfast ou encore dans les Hébrides, mais pour le moment, aucune piste crédible n'a permis de la retrouver. À l'écran, Alix Summer et ses deux jeunes enfants quittent le cimetière. Alix porte une robe verte, une veste noire et des lunettes de soleil sombre. Des amis du défunt s'approchent d'elle pour lui présenter leurs condoléances. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, Alix Summer peut commencer son deuil en faisant ses adieux à son mari. Depuis Kensal Green, c'était Matt Salter, BBC. Le plan change et Alix Summer apparaît. Elle est assise dans son studio d'enregistrement. Elle porte un débardeur jaune. Ses cheveux blonds sont attachés en arrière, dégagés de son visage. Un bandeau apparaît. Alix Summer, janvier 2022. Elle parle à un journaliste hors champ.
Pendant des mois et des mois, je n'ai pas pu revenir ici. Le studio était tellement saturé de sa présence, celle de Josie. Alors je l'ai laissé de côté. Je me suis concentrée sur les enfants, sur ma fille qui commençait le collège Saint-Père, sur mon fils dévasté pour essayer de lui faire voir que moi aussi je pouvais jouer avec lui, vous voyez. Et puis, quelques mois plus tard, la pandémie a commencé, bien sûr. La vie de chacun a été bouleversée et tout le monde a changé sa façon de vivre. Adopter des chiens, faire son propre pain, écrire des romans, etc. C'est à ce moment-là que j'ai compris que tout dépendait de moi maintenant. Absolument tout. Il n'y avait pas d'assurance vie, plus de revenus. Quand Nathan a disparu, il y avait quelques milliers de livres sur notre compte, mais ça n'allait pas durer bien longtemps. Il fallait que je travaille, mais comment peut-on trouver un travail au beau milieu d'une pandémie mondiale quand on est une mère seule qui doit faire l'école à deux enfants à la maison? J'étais terrifiée. J'ai commencé à me préparer à vendre la maison, à réduire nos frais. Jusqu'à ce qu'un soir, pendant le premier confinement, je vois ce renard dans le jardin, assis devant la porte de mon studio qui me regardait. C'était comme s'il me lançait un défi du regard, comme s'il me disait « Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Et est-ce que tu vas continuer à t'apitoyer sur ton sort, ou est-ce que tu vas te reprendre en main et tirer quelque chose de toutes ces atrocités ?» Car croyez-moi, c'était vraiment atroce. Mais je savais que si je pouvais le supporter, j'avais sous la main le matériel pour raconter une histoire absolument incroyable. Le lendemain matin, je me suis fait un café très fort, j'ai pris une grande inspiration, j'ai ouvert la porte de mon studio et je me suis dit « Allez Alix, tout est là, tout ce dont tu as besoin pour produire ce podcast. » Des heures et des heures d'enregistrement avec Josie, Roxy et Pat. J'avais accès à tout ce que le cirque médiatique avait produit depuis. J'avais enregistré mes appels depuis la disparition de Nathan, donc j'avais aussi toutes mes conversations téléphoniques avec les agents Albright et Bryant. C'était bien assez pour créer quelque chose d'inoubliable, d'absolument exceptionnel. J'ai contacté Andrea Muse, qui est spécialisée dans les podcasts de True Crime, et je lui ai demandé si elle voulait bien m'aider pour la production et le montage. Mes podcasts précédents étaient des entretiens simples, tous enregistrés en une session, qu'il fallait seulement en polir, couper légèrement avant de les diffuser. Ça allait être complètement différent. Cela impliquait des compétences techniques que je n'avais pas. Et ce jour-là, épaulée par Andrea, j'ai commencé. Au bout de quelques semaines, nous avions le premier épisode et nous l'avons diffusé à la fin du mois de mai. Ensuite, c'est devenu un phénomène, comme vous le savez. C'était énorme. Après la diffusion du premier épisode, des gens se sont mis à me contacter directement pour que je les interviewe. La mère de Brooke Ripley, Hélène, l'amie d'enfance de Josie, l'un des fils de Walter au Canada. Chaque semaine qui passait, le podcast devenait de plus en plus complexe, avec de nombreuses couches différentes, et c'était captivant. Et puis, durant l'été 2020, presque un an après la mort de Nathan, j'ai reçu un message de Kathleen. Vous vous souvenez d'elle ? Kathleen Rand. Les restrictions sanitaires n'étaient plus aussi strictes et j'allais pouvoir la rencontrer. Nous sommes convenus de nous voir à Queen's Park, juste à côté de chez moi. C'était un mercredi après-midi. J'étais absolument terrifiée.